21h passées de quelques secondes sur Radion. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission littéraire. C'est en effet Wagon Livre, 318e numéro de votre émission littéraire ce mercredi soir. Et nous sommes ensemble jusqu'à 22h avec un nouvel invité. Et c'est Laurent Vignat qui nous accompagne aujourd'hui pour un roman paru en avril dernier aux éditions du Jasmin, Monsieur I. Laurent Vignat, bonsoir.
Bonsoir Yannick.
Merci Laurent d'être venu de Saône-et-Loire devant le micro de cette émission littéraire pour parler de ce roman sorti au printemps de cette année 2017. Je vous présente un peu à nos auditrices et auditeurs. Vous êtes romancier, professeur de lettres en collège actuellement. Vous avez 47 ans. Vous habitez, je l'ai dit, en Saône-et-Loire, à Givry très précisément, à quelques kilomètres de Chalon-sur-Saône. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que j'aurais dû ajouter, comme votre éditeur, Édition du Jasmin, l'a fait avec un clin d'œil humoristique et pétillant?
Bien écoutez, je suis un bourguignon de fraîche date, puisque j'ai fait mes études sur Paris. Et en arrivant en Bourgogne, ce que j'ai découvert, ce sont les paysages. Donc j'aime beaucoup le vélo, donc effectivement je pratique le vélo en côte chalonnaise. Et d'ailleurs il y a toujours pour moi un lien entre le vélo et l'écriture, parce que souvent je trouve les bonnes idées, les bonnes phrases surtout, grâce au rythme du vélo. Et il y a à mon avis un lien très fort entre la syntaxe et le vélo. Alors ça serait une autre émission à faire, mais c'est vrai que je m'intéresse beaucoup aux écrivains cyclistes. Et il y en a de très bons, je pense à Paul Fournel, je pense surtout aussi aux chroniques d'Antoine Blondin sur le Tour de France, qui sont de véritables monuments littéraires. Et donc c'est vrai, cette pratique du vélo encourage en permanence ma pratique de l'écriture.
Alors votre éditeur, les éditions du Jasmin, rappellent que vous vous essayez aussi à partager vos expériences lors d'ateliers d'écriture qui peuvent réunir des retraités, des détenus, des enfants, des adultes.
Oui, alors ça, c'est une autre activité, parce que je pars du principe que l'écriture ne s'enseigne pas, en tout cas, elle peut se partager. Et c'est vrai qu'en France, on a une vision de l'écrivain encore très marquée par le romantisme, c'est-à-dire que l'écrivain, c'est Chateaubriand ou Victor Hugo qui vont attendre le doigt magique de l'inspiration pour se mettre à écrire quelque chose. Or, en réalité, je pense que c'est surtout du travail, et c'est de l'attention apportée au monde. Et le travail que je fais dans ces ateliers d'écriture, qui ne sont ni des cours de français, ni de la psychothérapie de groupe, c'est vraiment d'apporter des petits éléments, ça peut être un objet, ça peut être une photo, une carte postale. À partir de cet objet, de cet embrayeur d'imaginaire, eh bien les gens se mettent à écrire, je dirais en pleine décontraction, sans être complexé par l'écriture elle-même. Donc ce sont des ateliers qui visent à décomplexer le lien à l'écriture, qui en France, faut bien le reconnaître, est un lien un peu sacré, un peu impressionnant.
Je vous ai présenté comme romancier, mais vous êtes aussi nouvelliste. Alors moi je me rappelle les premières fois que je vous ai rencontré dans des salons du livre, il y a maintenant 6 ans, me semble-t-il. Vous aviez des ouvrages disponibles dans une maison d'édition, D'un noir si bleu, qui malheureusement, comme un trop grand nombre de maisons d'édition régionales, ont dû mettre la clé sous la porte.
Alors maison d'édition, je dirais même nationale. Et voilà, c'était une maison d'édition de qualité. Je tiens à rendre hommage à son fondateur, Pascal Arnault. Et il est vrai que cette maison d'édition n'a pas pu résister, je dirais, à cette idée de diffusion nationale, puisqu'il a fallu qu'il prenne un distributeur. Et comme les ventes étaient insuffisantes pour financer le distributeur, Pascal Arnault était obligé d'abandonner sa maison d'édition. Ce qui a été pour tous les auteurs de la maison d'édition une douleur partagée, puisqu'il faut savoir que la plupart de la production est partie au pilon. Et c'est vrai, quand on a écrit des livres qui partent au pilon, c'est toujours une grande tristesse. Mais ça a été une formidable expérience. C'est une très belle maison d'édition. Bon, espérons que ces manuscrits perdus trouvent preneur ailleurs.
Voilà. Pardon d'avoir ravivé ce souvenir douloureux, mais c'est aussi pour rappeler que vous avez utilisé le terme de résistance. Il en est un peu question quelque part, même largement dans votre roman, Monsieur I, dont on va parler. Mais comme Wagon Livre, cette émission littéraire est aussi une émission de résistance sur une antenne locale. Et effectivement, résister face à l'ignorance, face au fait qu'aujourd'hui, il y a un peu de dédain ou une mémoire oublieuse à l'égard de la grande culture, et notamment la grande culture française. Moi, personnellement, j'y suis très attaché.
Oui, résister face à l'affadissement de la langue, résister face aussi à l'appauvrissement des imaginaires. Ça, c'est d'ailleurs une des intentions qui alimente ce livre, c'est effectivement résister par l'imaginaire, un imaginaire vraiment qui soit personnel et que nous procure la littérature. Donc ce livre-là est peut-être avant tout une ode à l'imaginaire, vraiment.
On peut aussi trouver alors vos romans aux éditions Mutine. On mentionnera en 2006 Ligne de Rive. Il y a eu ensuite Une saison en campagne, c'était en 2008, ça va faire 10 ans, Laurent. Et puis, rappelons, donc, chez D'un noir si bleu, Le cri de Job, Après Venise, et puis vos recueils de nouvelles, Les enfants d'Héraclite, et Ils se sont tant aimés des frictions politiques. C'était aux éditions La Cause des livres.
Oui, c'était un recueil de nouvelles collectif qui portait sur le monde politique, et c'était un livre qui avait été fait lors de l'élection présidentielle de 2012, précisément. Voilà.
Et également conteur, Particules d'enfance, mais on aura l'occasion d'en reparler puisqu'il y a un spectacle en janvier 2018.
Très bien.
Une comédie musicale autour de ce conte que l'on peut se procurer aux éditions Mutine et qui est sorti en 2015. Alors cette fois-ci, il faut parler de Monsieur I, qui vous amène devant notre micro. Monsieur I, disponible aux éditions du Jasmin, c'est, je vous le disais, hors micro pour moi, une sorte de conte philosophique avec, je trouve, le fantôme de Voltaire qui est là, ce qu'on appelle un apologue, c'est-à-dire un texte où il y a une argumentation, où il y a une visée de dénonciation. Alors, si je parle de cela ainsi, on va nous dire, oh là là, c'est sans doute très compliqué. Et pourtant, votre éditeur le présente comme un livre, comme un roman jeunesse. Or, je trouve que tout le monde peut le lire.
Oui, alors ça, c'est un premier élément important. Donc, un petit rappel, les éditions du Jasmin est une maison d'édition en région parisienne à Clichy, spécialisée en littérature de jeunesse, mais littérature générale. Et au départ, si vous voulez, le souci que j'ai eu avec mon éditeur, c'était de savoir, mais pour qui, à qui s'adresse ce livre ? Donc moi, je voulais faire un livre où il n'y ait pas de lecteur exclusif, c'est-à-dire qu'effectivement, littérature de jeunesse, pourquoi pas ? Même si cette dernière, souvent, je trouve, doit obéir à des codes qui sont parfois assez bétifiants pour les lecteurs adolescents eux-mêmes. Mais aussi, je voulais un livre qui soit lu par les adultes. Donc un conte qui se passe aujourd'hui. Hein, qui se passe aujourd'hui, puisque la situation de départ est on ne peut plus banale. C'est une famille française, les Bredons, qui partent en vacances à Sète. Ils s'arrêtent sur une aire d'autoroute. Et là, en plein mois d'août, ils rencontrent un vieux monsieur très bien habillé, avec une belle veste moutarde, une cravate bordeaux, et qui fume d'étranges cigarettes, qui exhalent une fumée assez envoûtante. La famille s'installe, on sort les sandwichs, on sort le yaourt à boire, et ce vieux monsieur ne bouge pas, puis à un moment donné, il s'adresse à cette famille, il les appelle tous par leur prénom, et il se trouve qu'il les connaît. Alors si vous me permettez, Yannick, puis-je lire simplement le début du texte, ce moment où ce monsieur va se présenter à cette famille, puisqu'on va vite comprendre que ce monsieur n'est pas n'importe qui, il s'agit d'un djinn.
Un djinn, alors pour l'orthographe, c'est D-J-I-2-N.
On va vite le comprendre dans le texte que je vais vous lire, très court texte. Donc ça se passe au début sur l'aire d'autoroute. Il y a quatre personnages, Emmanuel qui est la mère, Pierre qui est le père, Honoré qui est l'adolescent et qui est le narrateur de l'histoire, et sa petite sœur Marion qui est une sportive. Voilà, je suis un djinn. Marion a écarquillé des yeux énormes. « Non, pas un blue jean », a-t-il immédiatement rectifié. « À chaque fois que je me présente, c'est toujours la même réaction. On me voit comme un de ces pantalons vulgaires portés par des garçons de ferme rustre. Une insulte à l'élégance et, pardonnez-moi Emmanuel, un sabotage pour les jambes des femmes. » Portant un Lévis 501 tout neuf, ma mère a caissé sans ne rien laisser paraître, bien qu'elle déteste ce genre de remarques machistes, tandis que mon père a subitement quitté le banc hors de lui. Des éruptions lidevin s'étalaient à vue d'œil sur son crâne et ses yeux. Derrière ses lunettes en titane étaient ouvriers de colère et de panique. Ma mère a aussitôt dardé sur lui un regard autoritaire. C'est elle qui était à la manœuvre. Il fallait la laisser agir. Il a respiré profondément, nous a regardés, a vu que nous restions apparemment calmes, ce qui a paru le rassurer. Croisant les bras sur sa chemisette, il lui a alors demandé d'un ton légèrement incrédule « Alors, comme ça, vous êtes un djinn ?»« Qu'est-ce que c'est un djinn » ai-je demandé pour qu'on avance un peu. « Je n'aime pas quand les situations s'enlisent autour d'un mystère, comme dans les livres fantastiques. » Et donc, monsieur Y, lisant peut-être dans mes pensées, a bien voulu m'expliquer. Honoré, un djinn, c'est un esprit. Un démon, dit-on. Enfin, pas tous. Il y a des démons et il y a des anges. Mais ça vaut ce que ça vaut, cette division. En réalité, ce n'est jamais aussi net. Pour simplifier, j'ai été vivant, comme toi, et maintenant je vis sous une autre forme, et le corps que tu vois, ce n'est qu'une construction de ton cerveau. Il nous a dévisagés un par un. Plus un nuage de fumée ne s'échappait de sa bouche. Ses yeux se sont ouverts tout grands. Ils avaient la puissance d'une émeraude pure, ils fulguraient. « Et ici » a-t-il repris d'une voix si lugubre qu'elle s'est mise même à pétrifier ma petite sœur, et ça il faut le faire. « Vous êtes les seuls, tous les quatre, à me voir, et vous me verrez ainsi pendant une année. » Il s'est arrêté, mesurant sur nous l'effet de son changement de physionomie et de ton, puis, constatant notre stupeur, un petit sourire s'est posé sur ses lèvres et les a défroissés. Il a bu une gorgée du yop qu'il a fait aussitôt grimacer. Pas bon ce truc.
Merci Laurent Vignat pour cette auto-présentation par le djinn qui va vivre donc pendant un an chez la famille Bredon. Personnage original et insolite que vous avez puisé dans le folklore de la culture arabe, même de la religion musulmane. Enfin, c'est un mauvais génie de la religion musulmane.
Alors les djinns, il faut le savoir, hein, font partie de la littérature arabo-musulmane. On les trouve dans les contes. Il faut aussi se référer à un fameux poème de Victor Hugo, les djinns. Et ce sont des personnages très ambivalents, c'est ça qui m'intéressait, mi-démon, mi-ange, comme je le dis, farceur, désagréable ou parfois bon conseiller. Donc ce type de personnage m'intéressait et surtout ce qui m'intéressait ici, c'est de confronter en permanence l'imaginaire d'une autre civilisation avec notre monde actuel. C'est pour ça que je me permets de temps en temps de mettre des marques d'aujourd'hui. Effectivement, ce djinn goûte un yop qu'il déteste. Hein, excusez-moi pour la fausse publicité. Mais en fait, voilà, ce qui m'intéressait, c'était de créer une collusion entre l'imaginaire et le réel pour que tout lecteur, justement, à la fois le lecteur adulte, adolescent, puisse retrouver des marques.
Et puis ce qui est formidable, c'est qu'au début, il est un peu effrayant, mais il devient vite très sympathique. Il rentre dans l'univers quotidien et familier de la famille Bredon.
Oui, oui.
Et notamment, surtout, aux côtés d'Honoré.
Aux côtés d'Honoré, effectivement. Alors, ce qui m'intéressait aussi, c'était de voir ce que pouvait donner une vie de collégien d'aujourd'hui, puisqu'Honoré est en troisième, avec un djinn qu'il doit se trimballer toute la journée, puisque pendant un an, il est là pour redresser tout le monde. Alors, on ne sait pas un petit peu le sens de ce redressement, on le saura davantage à la fin du roman. Et je voulais vraiment créer des situations cocasses sur le thème « Comment puis-je vivre avec un djinn en permanence ?»
Alors, ce qui est amusant aussi, Laurent Vignat, c'est que ce djinn, Monsieur Y, il est édenté, il a très très peu de dents et c'est amusant parce que le père de Honoré, le narrateur, travaille dans une société qui fabrique des prothèses dentaires.
Oui, alors de toute façon, on sait très bien que lorsqu'on écrit, on a toujours, on s'alimente sans cesse de ce que l'on vit. Un petit exemple, j'avais par exemple écrit un roman qui se passait dans une déchetterie, ça s'appelait Le cri de Job. Et ce roman est né d'une expérience on ne peut plus banale, puisque c'était un 26 décembre, ma voiture était pleine de paquets cadeaux, pleine de papiers, de cartons. Et je me suis rendu compte que le 26 décembre, tout le monde faisait exactement la même chose dans une déchetterie. Les pères, hein, faisaient ce travail-là de vider les cartons dans les bennes. Et là, le romancier que je suis prend l'habitude de faire un petit pas de côté et d'observer ce qui se passe. Et je me suis dit qu'une déchetterie, c'est très intéressant parce que c'est la coulisse de ce que nous sommes. Et il y a d'ailleurs des saisons de la déchetterie, puisque Nous sommes dans une période de la Toussaint. Là, en ce moment, c'est les vieux chrysanthèmes qu'on balance. Après, ce seront les paquets cadeaux, puis les bourriches d'huîtres. Après, ce seront les déménagements du mois d'avril, du mois de mai. Donc, voilà. L'idée, c'est que le roman n'est toujours d'expérience extrêmement banale. Pour en revenir à Monsieur Y, oui, prothèse dentaire, il s'est trouvé qu'au moment où j'écrivais le roman, j'avais moi-même des soucis dentaires et qu'il fallait que je me fasse poser des implants. Et voilà, j'ai découvert un peu le monde merveilleux des prothésistes dentaires. Si on a quelques prothésistes dentaires dans nos auditeurs, ils me comprendront. Et voilà, je voulais parler de cela. C'était aussi lié à une remarque de l'ancien président François Hollande qui avait appelé les pauvres les sans-dents. Et donc, cet aspect-là m'intéressait.
Eh bien, on va marquer une première pause musicale et on vous retrouve, Laurent Vigna, dans une poignée de minutes pour continuer à parler de ce personnage facétieux et merveilleux et terriblement attachant qui est au cœur de votre dernier roman, Monsieur I, disponible aux éditions du Jasmin. You're asking me on sight. Your touch paralyzes me and I can feel my body, I can feel my body anymore. So fast, I feel my heart beating, exploding. I'm out of my mind.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Laurent Vigna et Monsieur Y sont ce soir sur les banquettes de notre Wagon Livre sur Radion. Alors, on a compris donc que ce djinn débarquait sans crier gare dans cette famille et que cette famille va devoir le subir. Mais c'est, j'allais dire, c'est pas quelque chose de terriblement lourd, un peu impressionnant parce qu'il est aux côtés surtout du jeune adolescent Honoré, mais personne d'autre ne le voit, il n'y a que les membres de la famille qui peuvent le voir. Il est facétieux, il aime bien mettre un peu de pagaille et de désordre dans le quotidien un peu trop bien huilé de cette famille qui va connaître d'ailleurs d'autres drames.
Oui, c'est un révélateur. C'est-à-dire que c'est une conscience qui est avec la famille, qui leur révèle quelques absurdités du monde. Deux petits exemples, en particulier lorsqu'ils sont à 7. Monsieur Y a une certaine sympathie pour les miséreux. Et donc, par exemple, il va décider d'enlever tous les panneaux d'interdiction de mendicité dans la ville de Sète. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il a un petit côté anarchiste, il n'aime pas les lois, il n'aime pas les règles. Et cette famille qui était peut-être un petit peu trop conformiste va être sensibilisée de force. C'est jamais au départ très très plaisant, mais de force aux incohérences de notre société. Alors pour en revenir sur le problème des prothèses dentaires, c'est vrai qu'il y a une scène où le collaborateur du père d'Honoré trouve qu'il faudrait resserrer le marché dentaire et qu'il faudrait donc proposer des produits de luxe à mettre dans les bouches. Et donc sous l'impulsion de Monsieur Y, le père d'Honoré considère que c'est vraiment pas une bonne chose à faire. Est-ce qu'il faut avant tout, c'est de soigner le maximum de personnes. Donc voilà, donc Monsieur Y est un petit peu un révélateur des absurdités, des inégalités de la société. Donc il a ce rôle-là.
Et page 43, Monsieur Y explique le sens de sa mission, puisqu'il dit « je suis missionné par mes supérieurs ». Alors un de ses supérieurs, c'est Allah notamment.
Peut-être.
Il leur dit « je suis là pour vous redresser ». Pour vous aider à vivre autrement, à ouvrir les yeux sur vous-même et sur les absurdités injustes de votre monde.
Voilà. Donc effectivement, le programme devient de plus en plus clair à mesure que le roman progresse. Il va un petit peu d'ailleurs se brouiller en fin de roman, puisqu'on saura qu'il a aussi une autre mission. Mais ça, je ne vais pas l'en parler tout de suite.
Donc c'est pas si naïf que cela.
Non, c'est pas si naïf que cela.
C'est un personnage qui vient redresser et justement, Laurent Vignat, vous avez l'impression que nous sommes un peu aveugles, un peu trop englués dans notre confort matériel, dans notre virtuel, dans nos technologies que l'on croit infaillibles.
Oui, c'est pour ça que... Alors, peut-être revenir un tout petit peu en arrière sur ce monsieur Y. Pourquoi le Y ? À moins que... Non, je ne vais pas anticiper.
Mais... Non, mais on peut effectivement expliquer pour quelles raisons il est Monsieur I, la voyelle I.
Juste deux petites choses. Il existe, paraît-il, en Égypte, une tradition selon laquelle, lorsqu'un enfant naît, on lui octroie à la naissance une lettre. Et donc l'idée, c'est qu'effectivement, sur une année, cet ensemble des enfants qui sont nés de l'année forment une phrase qui, en fait, résume l'année. Alors j'ai trouvé l'idée, cette tradition populaire très belle, je ne sais pas si elle est exacte, mais donc Monsieur I, voilà, le I s'est imposé pour moi assez naturellement, puisque pour en revenir à votre question, effectivement nos vies peuvent vite nous apparaître planes, lisses, de plus en plus fades, sauf si on accorde de l'importance à l'imaginaire. Donc, I comme imaginaire aussi. Et qu'effectivement, l'imagination, donc la littérature, la création au sens large, est une façon de résister à cette fadeur. Et ça sera un petit peu, à la fin du roman, l'autre enseignement, et peut-être d'ailleurs le plus important, c'est qu'effectivement, pour rester vivant, mais véritablement pleinement vivant, il faut... toujours fréquenter la beauté, il faut toujours essayer de s'imaginer autre chose à partir du monde dans lequel on vit.
Effectivement, page 169, vous écrivez, mais vous reprenez cette citation à un écrivain sur lequel nous reviendrons plutôt à la fin de l'émission, « Chaque individu est une lettre dans le texte du monde ». Mmh. Et effectivement, les adolescents que vous mettez en scène, alors il y a Honoré, qui est le narrateur, il a 15 ans, il est en troisième, il va être touché par une très grave maladie, donc il y a un moment où il est hospitalisé et où le djinn va là aussi lui ouvrir l'esprit sur d'autres mondes et notamment sur la condition d'autres adolescents dans des pays qui ne connaissent pas, je dirais, le luxe du confort que nous connaissons à l'heure actuelle, même si la France a tendance à s'appauvrir tout de même.
Oui, alors c'est un passage que je vais me permettre de vous lire, si je peux le faire maintenant. Il y a effectivement, Monsieur Y va sensibiliser Honoré à une certaine forme de pauvreté. il va aussi montrer que dans notre société, de plus en plus, celui qui a de la valeur est celui qui réussit. Et c'est effectivement, c'est que de plus en plus, la seule valeur qu'on octroie à un individu est à l'aune de ses revenus. Et Monsieur Y va lui montrer qu'il y a d'autres valeurs et que dans d'autres pays, celui qui va avoir une valeur, ce n'est pas le riche, c'est le pauvre, le mendiant. Donc je vais vous lire un petit passage. Alors pour le situer un tout petit peu pour les auditeurs, Monsieur Y a cette faculté, on parlera peut-être après de ses pouvoirs parce qu'ils sont multiples. Alors je l'ai appelé Monsieur Cinéma en référence à une vieille émission de cinéma qui est animée à l'époque par Pierre Tchernia. Et Monsieur Y a la faculté, simplement avec une page de journal et d'un petit écouteur qu'il met dans les oreilles d'Honoré, de lui montrer différentes vidéos. C'est une espèce de YouTube sur pattes. Et donc là, il va emmener Honoré et sa sœur Marion en Égypte pour lui montrer en fait une drôle d'école, une école de mendiants. Donc je vais juste lire ce petit passage. Donc ils sont au Caire. Ils sont au Caire, Monsieur Y se promène avec Marion et ils assistent à une drôle de leçon. Au sol, sur une mosaïque de tapis, une dizaine d'enfants mal habillés étaient assis en tailleur. Leurs cheveux, leurs visages, leurs mains, leurs pieds portaient toute la crasse de la ville. Docilement, ils écoutaient devant eux un homme aussi crasseux qu'eux. Il leur parlait avec autorité, malgré ses pieds nus, escalopes écorchées et charbonneuses qui sortaient de son cafetan troué. J'ai d'abord cru assister à un prêche. Mais l'homme posait des questions à l'assistance et en fonction des réponses qu'elle lui faisait, il souriait, encourageait ou engueulait ferme. « C'est Abou Chalaoui, c'est un professeur », a murmuré Monsieur Y dans l'oreille de Marion. « Et les élèves que tu vois là s'apprêtent à passer un examen, comme toi. Écoute. » Interruption du film. Menu, Monsieur Y a cliqué sur la version française. « Toi, Toufik, » a ordonné le professeur, « récite la leçon d'hier. Comment procèdes-tu avec un effendi qui porte un costume neuf ?» Un enfant s'est levé, a croisé les mains derrière le dos et, avec l'assurance et la tranquillité que garantit le « par cœur », a commencé sa récitation. « Je fixe d'abord intensément le costume de l'effendi et en détaille toutes les coutures. » Mon regard est si intense que le client va finir par se sentir gêné, puis nu comme un ver misérable. À ce moment-là, mon regard est celui de la pauvreté qui condamne. Il est le cri indigné de la misère. Il est le doigt qui montre le symbole de l'oppression sociale qu'est le costume neuf. Bien, continue. Ensuite, je détache mon regard du costume et saisis le visage de l'effendi. Mes yeux alors s'adoucissent et peuvent sourler de larmes si le client montre une trop grande indifférence. J'ajoute à mes yeux pathétiques un sourire idiot et une posture des plus soumises. Je suis le crachat de la rue. C'est pas mal, c'est grosso modo ce que j'ai dit hier. Abou Chalaoui s'est arrêté et s'est mis à détailler d'un air terrible le visage de son élève. « Toufik, approche-toi !» L'élève est sorti de son rang, hésitant. « Par Allah, viens, te dis-je » Quand il s'est retrouvé devant lui, le professeur lui a balancé une grosse claque. « Que signifie cette blancheur? Tu t'es lavé ?» L'enfant était blême, sauf sa joue. « Avant-hier, il a plu. La pluie a lavé mon visage. »« Vaurien ! Et tu n'as rien fait pour le salir depuis ?»« Ce n'est pas ma faute, maître. Tu aurais pu cacher ton visage de cette mauvaise pluie. » Cette propreté est une insolence insigne. Présenter ta face farineuse à la clientèle, c'est courir à l'échec. Va te salir tout de suite. Nous avons une réputation à préserver. Nous sommes des mendiants professionnels. Nous sommes les plaies de ce pays. A-t-on jamais vu une plaie propre, fardée, souriante? La force du pauvre, ce sont ses haillons. Sa face sale et blessée. Ne l'oubliez jamais. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Au travail, les rues nous attendent.
Merci Le Rovigna pour la lecture de cet extrait. Et un peu plus loin, Marion, la jeune sœur d'Honoré, dit « Il y a quelque chose de bizarre, c'est que tous ces mendiants parlaient comme des livres. Et vous, est-ce que vos élèves collégiens parlent comme des livres ?»
Alors déjà, sur cette remarque-là, elle est très importante pour la suite du roman. Parce qu'effectivement, lorsqu'on lit un tel passage, on se dit, ces mendiants sont quand même curieux, ils parlent comme des livres. Une des réponses sera donnée à la fin du roman. Alors, est-ce que mes élèves parlent comme des livres ? Non, d'ailleurs, je crois que personne ne parle comme des livres. Ce qui me paraît important, c'est que lorsqu'ils parlent, qu'ils maîtrisent en tout cas le vocabulaire. Alors, on peut faire une toute petite parenthèse là-dessus, mais c'est vrai que je suis très soucieux de la perte du vocabulaire. Alors, effectivement, perdre son vocabulaire, c'est quelque part perdre le monde. Et d'ailleurs, Honoré le dit, puisqu'il a l'impression, lui, de mieux saisir le monde s'il a le mot pour le désigner. Or, les élèves auxquels je suis confronté ont de plus en plus de mal à exprimer d'abord ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent. Et cette difficulté d'expression va les conduire assez naturellement, malheureusement, à un langage indistinct, voire pire, ordurier ou violent. Et le travail du professeur de lettres aujourd'hui, il est vraiment dans cette urgence de leur donner des mots pour qu'ils désignent le monde et pour pas qu'ils cèdent à cette violence qui est en fait liée à cette incapacité à dire les choses. Je rappelle, Camus disait que mal nommer les choses, c'est abîmer le monde, en d'autres termes.
Oui, c'est ajouter de la confusion, voilà. Effectivement. Et au début du chapitre 4, intitulé 7, c'est-à-dire la ville où la famille Bredon se rend en vacances avec le terrible et diabolique Monsieur I, effectivement, Honoré, qui est un collégien, je vous le disais, un petit peu haut de gamme, sorte d'adolescent de 15 ans, sensible, bon, intelligent, curieux des mots, dit « J'aime les mots savants. Lorsque j'en possède un, je possède mieux le monde. » Et un peu plus loin, il dit « Manquer de mots, c'est manquer de monde. » C'est ce que vous
voilà, c'est expliquez. Ça, effectivement. Et c'est j'avoue, c'est ce qui encore me donne du sens à mon métier. Quand j'ai un élève, quand j'apprends un mot à un élève, j'ai vraiment l'impression de lui faire le don de quelque chose. Et qu'il va se détacher un tout petit peu plus du préjugé, de la violence, de la violence des réactions, etc. Effectivement, c'est pour moi très important.
Alors, la langue, il en est beaucoup question. Il est question aussi de la langue qu'on apprend en école de commerce. Là, c'est ce face-à-face terrible entre le père d'Honoré et Duval, son collègue, qui lui explique qu'il faut dégraisser les effectifs si on veut continuer à vivre. Alors là aussi, on est complètement dans l'actualité. Certaines violences aussi à l'égard de décisions sociales brutales qui mettent les gens sur le carreau.
Oui, alors c'est une violence d'ailleurs qui se dit dans une langue très aseptisée. Je pense que l'abus, en particulier d'anglicisme dans le monde managérial, a pour fonction, entre autres, d'euphémiser en fait cette violence. Et oui, donc ça, j'aime beaucoup effectivement cette confrontation entre la langue de Monsieur I, qui est à la fois une langue poétique et évidente, et cette sorte de nouvelle langue managériale, où on va mettre des mots anglais pour en fait masquer une réalité beaucoup plus violente. Puisque voilà, c'est quelque chose que l'on constate tous les jours. Et de temps en temps, c'est bien de redire les choses. Un exemple parmi tant d'autres, il est vrai que le mot collaborateur a remplacé le mot d'employé, par exemple, ce qu'on fait croire à tout le monde qu'on est des collaborateurs. Or, on ne fait que changer de mot sans rien changer derrière. Et la violence du monde social, du monde du travail, elle passe aussi par là, c'est que les gens... On les dépossède de leurs mots, on leur fait croire que ouais, on est tous collaborateurs, on leur fait croire qu'il y a une vision horizontale des choses, or la verticalité, elle est encore très présente.
Donc il faut remettre un peu les points sur les i, d'une certaine manière.
Les points sur les i. Bien joué, Yannick.
On marque, Laurent Vignat, si vous le voulez, un nouvel intermède musical, et puis on se retrouve dans une poignée de minutes avec vous pour continuer à parler de ce formidable djinn, et peut-être qu'il faudra que l'on aborde ses pouvoirs exceptionnels. C'est Wagon Livre et nous sommes ensemble sur Radion jusqu'à 22h.
J'ai traversé des contrées sauvages en priant le ciel que tu ne te retournes pas. J'ai claqué la porte, déposé mes bagages et mon innocence au mauvais endroit. Épuisé mes rêves jusqu'à perdre l'envie, s'il faut marcher au pas. Plus la chute est lente, plus on tombe dans l'oubli, moins les gens vous tendent les bras. Regarde-nous, encore debout. De haine, j'ai dû tout comprendre seul sous les orages. Il n'y a que des songes entre une femme et une reine, que des illusions de passage. J'ai compris les règles qui sont tapis dans l'ombre. J'ai appris à être un soldat. Malgré les discours et la force du nombre, jamais je ne marcherai au pas. Regarde-nous, encore debout. Une arme.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Monsieur I, c'est le titre du roman de notre invité, Laurent Vignat, qui est ce soir devant notre micro. Vous avez bien compris qu'effectivement, un djinn s'était invité durant un an au sein de la famille Bredon, la famille de Honoré Bredon, le jeune adolescent collégien en classe de 3e. Et ce monsieur I, ce djinn, a des pouvoirs exceptionnels, notamment pour se déplacer et déplacer les autres.
Oui, ça fait partie de ces nombreux pouvoirs. Alors, il y en a un autre qui me paraît très intéressant, c'est celui de pouvoir tirer sur les cordes du temps. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que je me suis un petit peu renseigné sur les théories sur le temps. Et de plus en plus, on parle d'un enchevêtrement entre l'espace et le temps sous forme de cordes. Et donc, Monsieur I a cette capacité de tirer sur les cordes du temps pour retenir le temps. Alors, l'autre pouvoir qu'il a, je dirais beaucoup plus classique dans la tradition de la littérature merveilleuse du Maghreb, c'est le pouvoir de voler. Et donc, par exemple, voici un petit peu ce que ça donne. Donc, Honoré habite la ville de Créteil et Monsieur I lui propose un petit vol de la banlieue et de la place de la Nation. Nous étions au-dessus de la ville de Créteil. Je n'éprouvais pas de vertige. J'avais l'impression d'être porté par des masses d'air, que ces masses présentaient le moelleux d'un bon matelas et qu'il suffisait de prendre appui dessus pour avancer. Grisé, je me plaçais à l'horizontale, la main droite tendue comme une proue. Ma tête chauve fendait l'air. J'étais invincible, le Superman du Val-de-Marne. liberté enivrante mais de courte durée, car au-dessus du bois de Vincennes, je sens subitement que plus rien ne me supporte. Armés de leurs lances nues et acérées, les arbres se précipitent à folle allure sur moi. Un cri m'échappe. Monsieur I, après une impulsion qui le change en torpille, me rattrape in extremis par une cheville au-dessus d'un grand chêne. Un moment de distraction, a-t-il prétexté sans vraiment s'excuser. Le Superman n'était qu'un oisillon tracté par un vieux vautour à cravate. Après le château de Vincennes, puis le périphérique embouteillé, nous avons survolé un grand boulevard au bout duquel j'ai reconnu les deux colonnes de la place de la Nation. Arrivé là, j'ai violemment éternué.
Alors, on a bien compris, effectivement, ces déplacements du djinn comme de Honoré qui flottent dans les airs tel Sinbad sur un tapis. Et il y a même ce passage très très drôle où Monsieur Yi peut tomber comme ça, arriver brutalement. Monsieur Yi s'est brusquement écrasé sur le fauteuil comme une bouse tombée du ciel. Il y a toujours ces petits clins d'œil drôles dans votre roman, Laurent Vignard.
Oui, c'est très important. Enfin, bon, l'humour, ça peut être particulièrement redoutable quand c'est raté. Donc, ça demande beaucoup de travail. C'est un manuscrit que j'ai repris à maintes reprises parce que j'ai cherché le trait d'humour qui soit juste là, sans être trop appuyé, parce que dès que c'est appuyé, l'humour rate, comme une bouse. Voilà.
Mais c'est très baroque, à la fois entre... disons, les objectifs didactiques du roman, l'aspect polémique, il y a des aspects polémiques, des aspects graves, où effectivement on assiste, grâce au djinn, à ces au printemps arabe. Là encore, on retourne au Caire. Le Caire, une ville de 16 millions d'habitants. Il faut imaginer aussi une ville qui est quand même immensément polluée aujourd'hui, où l'on ne vit pas au Caire comme on vit à New York ou à Paris. Ça aussi, vous le faites bien comprendre.
Alors ça, c'est la dimension, je dirais maintenant, historique du roman, puisque le roman commence en août 2011. Et donc, je voulais aussi... toujours en idée de confronter l'imaginaire au réel, confronter l'imaginaire à l'histoire. Et à donc, à un moment donné, Monsieur Yi, donc on l'a compris, d'origine égyptienne, décide d'emmener la famille, enfin, laquelle demande, c'est la famille qui demande à Monsieur Yi de l'emmener voir les printemps arabes et surtout la commune de Tahrir, sur la place Tahrir au Caire, qui, je le rappelle, a été une expérience démocratique absolument inédite dans le Maghreb et qui s'est très mal terminée, puisqu'aujourd'hui, à nouveau, l'Égypte est sous la férule d'un général, le général Al-Sisi. Et je voulais aussi qu'il y ait cette confrontation, une démocratie fragile qui se mettait en place sur cette place Tahrir.
Il y a aussi le regard très sévère que le djinn porte sur ce qu'est devenu son pays. Il dit notamment « Mon pays est pollué par le folklore. La vallée des rois est devenue un parc d'attractions. Mon Égypte, c'est le petit peuple insolent du Caire. C'est un peuple farouchement libre qui s'est toujours moqué des tyrans. »
Oui, avec ici en creux une sorte de critique de l'alliance objective entre le tourisme et une certaine forme de gouvernement autoritaire. Et c'est aussi intéressant de voir ça, de voir en Égypte en tout cas, que les gouvernements autoritaires vont toujours aller dans le sens du tourisme, mais ne vont pas vraiment dans le sens du peuple.
En tout cas, il y a la condamnation de la société de consommation, la réprobation du chichi, du superflu, qui ne donne pas le sens à une vraie vie bien vécue. Alors, Proust a dit « la seule vie vraiment vécue, c'est la littérature ». C'est ce sens-là pour vous, Laurent Vignat ? La seule vie vraiment vécue, c'est la littérature ?
Oui, c'est la littérature, c'est aussi le plaisir.
Hein, un verre de Rully.
Voilà, un verre de Rully, par exemple.
Après-midi de cyclisme, voilà, vignoble chalonné.
Absolument, et on finit effectivement sur un verre de Rully.
Le plaisir simple.
Le plaisir simple, mais qui ont du sens.
Alors, il y a des choses même presque christiques. Page 58. Crise permanente que la vie et royauté de l'homme que la pauvreté.
Oui, alors...
Alors, certaines critiques que j'ai lues, certains lecteurs trouvent que le personnage est trop moralisateur. Moi, je n'ai pas trouvé personnellement. Qu'est-ce que vous répondez à cela ?
Si, alors, on écrit toujours un roman dans un héritage. Comme vous l'avez précisé en début d'émission, effectivement, je m'inscris dans l'héritage de Voltaire, dans l'héritage de Swift, donc de cette littérature qui va utiliser l'imaginaire pour porter un regard sur le monde, des interrogations, pas forcément de morale, puisque la morale de monsieur est assez ambivalente. Hein.
Impertinente.
Impertinente. Hein, donc, mais ça, je l'assume tout à fait par rapport au genre littéraire que j'ai voulu explorer et essayer de renouveler un petit peu.
Autre citation, alors c'est page 173. Là, c'est un conseil que le djinn, monsieur Yi, donne à Honoré, et je crois sa sœur en même temps, Marion, qui est à côté. « Ne vous prenez jamais trop au sérieux. Laissez toujours éveiller en vous l'enfant que vous avez été. Ne laissez pas la peur dominer le monde. »
Oui, c'est
vaste programme.
Vaste programme. En tout cas, effectivement, on sait très bien que la peur domine de plus en plus les êtres.
La peur de soi même.
La peur de soi, effectivement. La peur des autres, la peur de s'affirmer, la peur de se distinguer des autres. Et de ce point de vue-là, mais je crois qu'on va y venir, il y a un personnage qui est très important dans le roman, c'est le personnage de la grand-mère Monique.
Une originale, on ne fait pas mieux.
Oui, alors, ce qui est très intéressant, c'est que Monique, il faut la remplacer dans son époque.
Elle a 90 ans.
Elle a 90 ans. Ça a été une féministe de la première heure, quelqu'un qui a connu les remous de mai 68. Et c'était une façon aussi pour moi de rendre hommage à cette génération maintenant qui est âgé et qui apportait quand même des idéaux de liberté. Actuellement, on parle beaucoup effectivement du harcèlement qui est une préoccupation très forte. Et c'est vrai que par rapport à la question féminine, moi j'ai l'impression qu'on est dans des légers reculs par rapport à ce qu'ont connu nos grands-mères, par exemple, et nos mères.
On est aussi malheureusement, je dirais, sur une américanisation de la société. Et ça, moi, je trouve que ce n'est pas très réjouissant.
C'est vrai, ça je vous le concède. Mais toutefois, il y a encore des combats féministes à mener. Et donc Monique se réclame de Simone de Beauvoir, entre autres. Et ce sont des combats très forts. Et c'est sur ce point-là, d'ailleurs, et c'est l'une des clés du roman, qu'on va comprendre le pourquoi du comment de la présence de Monsieur Yi. Parce que, in fine, le lecteur se demande mais pourquoi ce djinn est là une année pour les redresser. Et il y a peut-être un lien avec la question féministe.
Et on comprend effectivement pour quelle raison cette famille a été retenue.
A été retenue, effectivement.
De certaine manière, elle a la grâce. Une forme de grâce.
Oui, ou elle est sous surveillance pendant une année.
En tout cas, cette grand-mère Monique, 90 ans, c'est une insurgée.
Oui, c'est une révoltée. Et j'aime d'ailleurs, je trouve belle cette révolte intacte, malgré les ans, cette volonté d'insurrection, ce fait de ne pas accepter les choses telles qu'elles vont, telles qu'elles sont. Et il est vrai qu'aujourd'hui, je suis assez épaté par l'apathie d'ailleurs de la jeunesse, par l'apathie de personnes qui subissent de véritables injustices sociales, et que des choses qui passent assez facilement aujourd'hui ne passaient pas si facilement il y a 30 ans ou 40 ans en arrière. Donc on sait, pour reprendre encore une fois Camus, que l'homme naît lorsqu'il sait dire non, et je trouve que le non ne s'exprime plus avec autant de fermeté et de poésie qu'il s'exprimait autrefois.
Alors, il y a eu aussi toute une vague autour des indignés. Stéphane Hessel, indignez-vous. Mais est-ce que s'indigner remplace le combat? Pas
oui,
forcément.
On a l'impression que ça ne trouve pas d'écho. Il y a encore quelques porte-paroles, parfois de talent, parfois de... Mais il n'y a pas d'écho, dans la société. Parce que je pense qu'effectivement, ce manque d'écho est lié à l'hyper-individualisation des individus, où on a l'impression que l'homme est seul, l'homme contemporain est seul face à lui-même et qu'il ne peut plus se reposer sur un collectif.
Et les idéaux ont disparu tout de même. Par rapport aux années 30, qui sont des années qui ont connu une grave crise économique, grave dépression morale, économique, il y avait des idéaux idéologiques. Bon, il y avait l'extrême droite, il y avait le fascisme, il y avait le communisme, on croyait. Aujourd'hui, on a l'impression, justement, la situation en France, on a l'impression qu'il n'y a plus cette binarité droite-gauche, qu'il y a une mollesse politique au centre.
C'est l'indistinction macronienne qui est assez fascinante de ce point de vue-là. Ou alors, il y a encore des valeurs, mais ce sont toujours des valeurs en contre. Il n'y a pas de proposition pour l'avenir.
Laurent Vignat, le temps passe très vite avec vous. Juste citer cette, cette phrase de Pierre Guyotat, la littérature est une aventure, pas une carrière, cela vous sied, je suppose ?
Oui, non, la carrière, pas pour le moment. Et puis d'ailleurs, si on pense à la littérature en termes de carrière, je ne suis pas sûr que ce soit excellent pour la qualité de l'écriture.
Laurent, quels sont vos prochains projets d'écriture ? Alors, 2018, c'est l'année des 70 ans de la mort de Antonin Artaud. Et vous allez vraisemblablement lui donner un peu de lustre aussi ?
Oui, alors je rappelle Antonin Artaud, hein, 1896-1948, ça a été à la fois un comédien, donc on le voit dans les films d'Abel Gance par exemple, ça a été un grand théoricien du théâtre, ça a été un grand poète, et c'est quelqu'un qui surtout a été une figure marquante du surréalisme, et qui au cours de sa vie aussi a connu 9 ans d'internement psychiatrique. Donc c'est pour moi un personnage majeur de la littérature, injustement un petit peu oublié. Et donc, j'ai répondu en quelque sorte à une commande de mon éditeur qui a une collection consacrée aux biographies. Et donc, la biographie que je vais proposer, qui est écrite comme un roman, mais qui n'est pas un roman, c'est une véritable biographie, a pour objet de mettre en avant le message, enfin, les messages toujours extrêmement pertinents de ce poète, de ce théoricien, de cet homme de théâtre. Donc la biographie va paraître le 4 mars 2018 précisément, puisque ça sera le 70e anniversaire de la mort d'Antonin Artaud. Et donc le livre sera lancé à Rodez, dans l'Hérault, puisqu'en fait Antonin Artaud a vécu 4 ans à Rodez, à l'asile psychiatrique de Rodez. Et donc ça sera aussi l'occasion d'ailleurs dans cette biographie de faire un sort à ce qui s'est produit pour les malades mentaux pendant la Seconde Guerre mondiale qui ont été les premières victimes de l'occupation nazie. Il ne faut jamais oublier que les nazis avaient dans leur programme idéologique l'élimination des malades mentaux.
Et puis 2018 sera le 10e anniversaire de la mort de Albert Cosseri. Et là, j'en dis pas plus, mais il a un lien, il est en filigrane dans ce roman.
Oui, effectivement, il est en filigrane sur la couverture, il est en filigrane dans le personnage de Monsieur I. Et donc j'invite les auditeurs à lire Monsieur I pour en savoir davantage sur ce grand écrivain franco-égyptien qui s'appelle Albert Cosseri.
Laurent Vignat, vous avez une actualité autour d'un de vos contes, un conte musical. C'est le samedi 13 janvier 2018. Sortez vos agendas, c'est à 16h et c'est à Montceau-les-Mines. De quoi s'agit-il précisément ?
Alors au départ, c'est une commande. J'étais parti en résidence d'écriture à Eindhoven il y a quelques années. Et donc parmi les travaux, je devais donc écrire un conte musical pour un ami qui est professeur au conservatoire de Chalon-sur-Saône, Merwan Jeanne. Et l'idée c'était de faire un conte pour adolescents. Donc c'est une ambition difficile à atteindre parce que les adolescents n'aiment pas trop ça. Entre temps, c'est devenu un manga musical. Donc ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui est malmené dans sa cour de récréation et qui a un pouvoir terrifiant, celui de pouvoir agiter le boson de Higgs. Donc je rappelle que le boson de Higgs, autrement appelé la particule de Dieu, est un des constituants primaires de l'univers. C'est ce qui donne la densité à toute chose. Et que ce boson, on a pu le localiser dans le fameux LHC du CERN, ce grand anneau de 30 km de circonférence entre la Suisse et la France. Et donc on a pu enfin l'isoler. Et donc c'est à la fois un conte autour de ce boson de Higgs et qui aborde aussi le monde dans sa diversité et ses nombreuses blessures.
Spectacle musical, donc samedi 13 janvier 2018 à 16h à Montceau-les-Mines.
Voilà. Le compositeur de la musique est Merwan Jeanne. Il est seul avec sa basse et ses différents loopers. Et il est aussi le narrateur du texte et j'en suis l'auteur. Voilà.
Et l'auteur du roman dont nous avons beaucoup parlé ce soir, c'est Laurent Vignat, auteur de Monsieur I, roman aux éditions du Jasmin. Merci Laurent Vignat d'avoir été à bord de ce 318e numéro de Wagon Livre.
En vous remerciant chaleureusement Yannick.
C'est moi qui vous remercie Laurent. Rendez-vous, bien sûr, sur internet www.yannickpetit.fr. Si vous avez manqué le début de l'émission avec Laurent Vignat, vous la retrouvez dans son intégralité en suivant ce site d'archives de l'émission Wagon Livre. Il y a plus de 310 émissions en ligne, donc de quoi s'occuper pour les soirées d'hiver. Rendez-vous mercredi 29 novembre prochain à 21h, toujours sur Radion, pour un compte-rendu de la 10e fête du livre de Saulieu, avec des interviews de l'auteur qui était l'invité d'honneur du Salon du livre de Saulieu, Karine Lebert, pour un roman intitulé « Les Demoiselles de Beaune » paru aux Presses de la Cité. Nous tendrons notre micro à Agnès Panet pour « Les Racines au cœur », roman dont l'action se situe dans votre département, hein, c'est dans le Mâconnais et c'est aux éditions de l'Armançon. Et puis nous vous ferons entendre Laurent Jeannin qui a sorti un délicieux carnet de voyage suite à un séjour de 3 semaines en Israël courant octobre 2016. Il a vécu chez l'habitant, hein, c'est vraiment au quotidien. Merci d'avoir suivi cette émission. Monsieur Huy de Laurent Vignat, disponible aux éditions du Jasmin. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir et à mercredi prochain. Thank you.